Jean-Philippe Noël publie aux éditions de la Chaux Eniesley ces animaux qui font l'histoire. Donc, alors 50 histoires, on va dire croquignolesques, anecdotiques sur ces animaux, parce qu'il y a des choses à la fois drôles et puis des choses étonnantes surtout.
J'espère surtout qu'il y a des choses étonnantes, mais effectivement, ce sont 50 histoires. Elles ont pour point commun que tous ces animaux, d'abord, sont tous des animaux qui ont vécu. C'est des animaux vivants et ils ont tous eu à un moment ou pas leur nom dans les journaux. En fait, le livre commence à l'Antiquité avec des animaux que tout le monde connaît ou dont tout le monde a entendu parler, puisqu'il s'agit des oies du Capitole. Donc on est à peu près 300 ans avant Jésus-Christ et on termine l'année dernière avec l'orque Tilikum, qui est une orque qui vivait dans un siquarium et dont on a beaucoup parlé parce qu'elle a été la vedette d'un documentaire qui a fait changer les lois concernant la captivité des cétacés en France.
Alors, on connaît aussi les fameux éléphants d'Hannibal, la girafe de Louis XIV, le panda aujourd'hui qui a une marraine très célèbre puisque c'est la première dame de France. Les animaux, finalement, quelquefois, ont un rôle très important à la fois dans le monde politique, mais dans le monde aussi par rapport à l'humanité. Vous venez de le soulever, notamment avec cette orque.
Tout à fait. Il faut se rappeler qu'en fait, moi je dis toujours qu'il n'y a pas d'humanité sans animaux. C'est-à-dire que si on regarde les premières formes d'art, elle nous parle de l'animal. Les hommes ont commencé par peindre des animaux. Et tout le long de l'histoire, tout le long de notre histoire d'humain, l'animal nous accompagne. Il est parfois un compagnon, parfois un ennemi, et malheureusement on l'exploite très souvent, mais l'homme ne peut pas vivre sans animaux. Ces quelques animaux, ces 50 histoires d'animaux que j'ai choisies, elles sont là pour rappeler cette évidence avec des animaux qui ont eu une destinée particulière et en tout cas une destinée qui a parlé aux hommes.
Alors je pense à cet âne qui peint, effectivement, qui a été utilisé pour démontrer que n'importe qui pouvait peindre et exposer, pourquoi pas, une toile dans un musée ou dans une exposition.
Alors voilà, effectivement, alors Lolo, il est un peu là, il s'appelle Lolo, hein, c'est l'âne du lapin agile de Montmartre à Paris. On est au début du siècle, effectivement, c'est la naissance de l'art moderne, c'est l'apparition des premières formes de peinture abstraites, impressionnistes. Et Lolo, on va tremper sa queue dans différents pots de peinture, on va le faire peindre un tableau et on va exposer à l'époque où il y a des grandes expositions, on va exposer et on va inventer un peintre, un nom de peintre italien, etc., etc. Et certains critiques vont effectivement reconnaître un véritable génie. Ça a été fait très sérieusement, ça a été fait avec une justice autour pour montrer effectivement comment ça s'était passé. Et puis après, les protagonistes vont dire comment ils avaient créé l'histoire. Mais vous savez que le tableau est visible encore aujourd'hui et il a été exposé il n'y a pas très longtemps à Orsay.
Alors le public est finalement très, très attentif, et quelquefois peut-être un peu crédule. Je pense au fameux poulpe pronostiqueur des résultats footballistiques.
Oui, alors ça c'est bon. En même temps, mathématiquement parlant, c'est quand même assez étonnant parce qu'effectivement, il a deviné, pour la Coupe du Monde à l'époque, il a deviné énormément, il a donné de très bons pronostics. Mais effectivement, c'est des emballements comme ça. Alors, c'est des emballements qui aujourd'hui sont permis aussi grâce à Internet. Mais là, on est effectivement plus dans l'anecdote.
Alors, quelle relation, finalement, l'homme et l'animal ont tissé tout au long de ces années? Il y a une sorte de, j'allais dire, presque de collaboration entre l'homme et l'animal.
Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas d'histoire humaine sans animal. L'homme, il ne peut pas se passer de l'animal. Donc, il s'en sert, il a évolué avec. Après, il y a les animaux, on va dire, sauvages, qui sont un peu un fond qu'on connaît plus ou moins, mais il y a surtout des animaux qui ont vécu à nos côtés et qui vont évoluer, grandir avec nous et dont on ne peut pas se passer.
Alors vous qui avez pendant plus de 10 ans travaillé sur des documentaires animaliers, quel est l'animal ou quels sont les animaux qui vous ont le plus marqué?
Non, en fait, alors je vais vous répondre autre chose. Je suis pas. Moi, j'aime les animaux dans l'ensemble. Je peux m'arrêter dans mon jardin face à une fourmi pendant des heures parce que je trouve que c'est un mécanisme extraordinaire. Mais les animaux, évidemment, que l'on porte plus, et en tant que journaliste au magazine 30 millions d'amis et ayant fait pas mal de productions, moi, ce qui me révolte à chaque fois, c'est plutôt la façon dont on considère l'animal aujourd'hui et avec quelle facilité on l'extermine ou on l'exploite. Donc, en fait, mon affection va surtout aux animaux et mon envie de gueuler va surtout aux animaux qui sont en danger ou qui sont surexploités.
Alors, on a eu tendance, effectivement, à un moment à vouloir exploiter, je pense aux dauphins, par exemple, à des fins militaires.
Tout à fait. Alors, il y a des exploitations à des fins militaires, mais qui restent encore très, très peu importantes. En revanche, on peut s'étonner sur l'exploitation des dauphins et autres cétacés dans les aquariums aujourd'hui, où les animaux sont dans des conditions de captivité épouvantables, où les animaux ont des espérances de vie très courtes. Et aujourd'hui, où la science a fait énormément de progrès sur les capacités de souffrance de l'animal, ses capacités d'intelligence, de compréhension, d'altruisme, par exemple, par rapport aux dauphins, les maintenir dans des piscines ridicules, on sait à quel point, moralement, pour ces animaux, c'est totalement destructeur. Et on parlait de Tilikum tout à l'heure, qui est donc cet orque qui est responsable de la mort de 3 personnes, qui a tué volontairement 3 personnes. Et cet animal était devenu fou. Et il est mort dans une toute petite piscine. Il mesurait 9 mètres, il était dans une piscine de 10 mètres. Et il est mort totalement abandonné tous. Et vous savez pourquoi on le gardait en vie ? Pour utiliser son sperme, pour pouvoir créer des animaux, faire des petits.
Alors, à contrario, certains animaux sont malheureusement en voie de disparition à cause de l'homme. Et peut-être qu'un jour, dans certaines réserves ou dans certains zoos, je ne sais pas si on peut prononcer ce mot en parlant de certains zoos, mais il y a des espaces qui peuvent être dédiés. Et il y a certains animaux qui se reproduisent en captivité. Il y en aura peut-être bientôt plus qu'en liberté.
Oui, d'abord, c'est un peu le drame. Alors, il faut pas confondre zoos et réserves ou parcs naturels ou parcs naturels. Je pense que les zoos n'auront pas la solution. C'est-à-dire qu'effectivement, les zoos vont pouvoir maintenir les gènes, mais ne maintiendront pas l'espèce en vie. C'est-à-dire qu'effectivement, un lion qui se reproduit depuis 30 ou 40 ans en zoo perd ses capacités à vivre en liberté. En revanche, effectivement, il faudrait réussir à créer des véritables zones de protection pour les animaux, mais aujourd'hui, avec la pression humaine, c'est totalement impossible. C'est-à-dire que la plupart des parcs nationaux africains, aujourd'hui, sont incapables de gérer les frontières et de laisser... parce qu'il y a une pression humaine qui est trop importante.
Merci Jean-Philippe Noël. Donc, ces animaux qui font l'histoire, c'est aux éditions de la Chaux Aignesté, 50 histoires singulières et extraordinaires qui vont nous permettre de retrouver nos amis, les animaux. Merci à vous.
Merci beaucoup.